Salut, c'est Julie, et bienvenue dans le 7e épisode de Galerie d'Art. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je rappelle le concept. Relier l'art à la société. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la bande dessinée. Alors voyageons sans attendre dans le monde de l'art séquentiel. Oh, je suis trop fatiguée là, hier je me suis couchée à 4h du matin.
Hein, mais pourquoi même?
Bah j'ai recommencé les BD de Lou, c'est trop bien, franchement je me souvenais plus de la fin.
Ah mais oui je connais, mais un dessin animé, je savais pas que ça existait en BD.
Mais oui, c'est sorti en BD il y a cher longtemps. Par contre c'est grave intéressant de savoir comment c'est fait les BD en vrai. Donc laisse-moi te raconter l'histoire de l'art séquentiel. Il faut savoir que l'homme a toujours cherché à s'exprimer et à communiquer par le dessin, que ce soit par la peinture, l'illustration ou la bande dessinée. Des premières fresques dans les grottes de Lascaux jusqu'à Tintin, le principe est resté le même. Tenter par des dessins de transmettre des émotions, un message ou de raconter une histoire. Alors oui, je réponds à votre question, la bande dessinée est bien un art, d'ailleurs souvent désigné comme le 9e art. Et c'est plus précisément un art séquentiel qui désigne des modes d'expression artistique dans lesquels des images se succèdent selon un ordre réfléchi afin d'élaborer soit une narration graphique, c'est-à-dire une histoire racontée de manière visuelle, soit des contenus informatifs. La bande dessinée est un genre riche d'une longue histoire qui a su traverser les époques en évoluant avec elle, en renouvelant son esthétique et en diversifiant les thèmes qu'elle aborde. L'histoire retiendra que c'est le Suisse Rodolphe Töpffer qui fut l'inventeur et théoricien officiel de la BD. Il disait que les dessins, sans le texte, n'auraient qu'une signification obscure, le texte, sans les dessins, ne signifierait rien, chacun des dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte, le tout ensemble forme une sorte de roman d'autant plus original qui ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. En 1833, Töpffer publie sa première bande dessinée, en ajoutant des légendes à ses dessins. C'est l'histoire de Monsieur Jabot, qui met en scène, je cite, « une sorte de bouffon sot et vaniteux, qui tente de s'introduire dans le monde bourgeois maladroitement ». En fait, Töpffer prenait plaisir à observer les hommes pour mieux faire ressortir leurs défauts, et la plupart de ses bandes dessinées appartenaient à ce registre satirique. En 1793 naît l'imagerie d'Épinal, qui était à l'origine une imprimerie fondée par Jean-Charles Pellerin. Dans les années 1880, l'imprimerie commence à publier des livres où l'on peut retrouver des histoires racontées par une suite de dessins colorés dont le texte se trouve au bas de la page. Ces illustrés, comme on les appelait à l'époque, reprenaient souvent de grands classiques de la littérature enfantine, comme La Belle au bois dormant ou encore Cendrillon, mais aussi des récits historiques. Les images étaient vendues sous forme de feuilles volantes ou de petits livrets bon marché, les rendant accessibles à un large public. Dessinés dans un style réaliste, ces récits illustrés pour enfants n'étaient en revanche encore que des alignements d'images surmontant un texte continu. Il faudra attendre 1905, avec la BD Les Aventures de Little Nemo, pour que la BD trouve son style actuel. C'est à cette époque que les auteurs se mettent à utiliser des bulles pour écrire les textes et des cases pour les illustrations. La série Little Nemo a été créée par Winsor McCay et a été publiée dans plusieurs journaux américains. Elle raconte l'histoire d'un petit garçon timide, sage et rêveur d'environ 6 ans. Une nuit, Morphée, le roi du monde onirique, appelé Slumberland, l'invite dans son royaume dans le but de le présenter à sa fille, la princesse. Et chaque nuit, lorsque Little Nemo s'endort, il entre dans ce monde fantastique. On suit alors ses aventures mouvementées et les défis qu'il rencontre pour rencontrer la princesse. Cette série est rapidement devenue un modèle pour les autres auteurs de l'époque. From the director of Home Alone. Étonnamment, le terme de bande dessinée s'est imposé assez tard en France, à la fin des années 1950. La BD a longtemps été publiée dans la presse, souvent en bas d'une page sous la forme d'une bande. À noter qu'aux États-Unis, on appelle plutôt cela des comics, tandis qu'au Japon, ce sont des mangas. Parce que oui, l'histoire de la BD n'est pas exclusivement française. L'Europe a vu sa création, les États-Unis l'ont popularisée, et l'Asie représente aujourd'hui la plus grosse production de BD, particulièrement avec le Japon et la Corée. En Europe, la BD se diffusait majoritairement via les revues et les journaux satiriques. Aux États-Unis, les comics ont été popularisés dans les journaux américains, les faisant devenir un médium de masse assez diversifié. Et à partir des années 1950, le Japon se met à en créer massivement sous l'influence d'Osamu Tezuka, un mangaka qui est souvent considéré comme l'équivalent japonais de Walt Disney. Il faut savoir que les trois foyers étaient relativement indépendants, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, tant au niveau des œuvres publiées que dans les structures éditoriales. Maintenant, petite anecdote. Est-ce que vous saviez que la BD avait été contrôlée par la loi française? En fait, elle était considérée comme infantile, mais beaucoup la voyaient comme vecteur de violence auprès de la jeunesse. C'est pourquoi le 16 juillet 1949, une loi a été promulguée interdisant toute publication destinée à la jeunesse présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tout acte qualifié de crime, de délit ou de nature à démoraliser. Sinon, quand je parle de BD, vous pensez forcément tout de suite à LA BD qui vous a bercé lors de votre enfance. Moi, perso, ce sont les Schtroumpfs, mais il en existe tellement qu'il serait impossible de dire ma préférée.
C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou.
Il a pas peur de personne.
La famille des Barbapapa.
C'est Barba Mama, Barbie Dure, Barbie Bulle Barbe.
Dans ma cuisine, je suis le roi.
Et moi la reine.
Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la BD a exploré presque tous les champs possibles et se voit être de plus en plus légitimée. Grâce à l'essor d'Internet et au perfectionnement des outils numériques de création, les auteurs de bandes dessinées ont commencé à publier des BD numériques faites digitalement. Certaines BD ont même été réadaptées au cinéma, comme le Marsupilami. Le film, nommé « Sur la piste du Marsupilami », a été réalisé par Alain Chabat en 2012, à partir du personnage fictif à la longue queue préhensible créé par André Franquin en 1952. On peut ainsi dire qu'aujourd'hui, les BD sont à la portée de tous, adultes comme enfants, et que le marché ne cesse de grandir.
Je me dirige vers le redouté territoire des Payas. Mon guide, chétif, mal nourri, probablement illettré.
Je vous entends cette distance.
Vous avez toujours cette légende là du Persilami ?
Marsupilami, dites-le bien sinon ça va m'énerver.
Une dernière chose reste à mentionner. La bande dessinée est un mode d'expression artistique qui est de plus en plus utilisé par les historiens pour traiter la mémoire collective. Elle peut alors parfois s'inscrire dans un contexte social particulier et potentiellement avoir un impact social avéré. Et cette phrase me permet d'effectuer une belle transition vers la suite, parce que maintenant que vous connaissez l'histoire de la bande dessinée, passons à la base même de cette émission, relier l'art à la société. Et pour l'art séquentiel, j'ai choisi de vous parler d'une bande dessinée qui raconte un contexte social exceptionnel. La Seconde Guerre mondiale, accompagnée de l'antisémitisme. Connaissez-vous la bande dessinée Maus, faite par Art Spiegelman ? Elle a largement été saluée pour sa puissance narrative et sa capacité à renouveler notre vision de la Shoah. Alors laissez-moi vous raconter son histoire, mais attention, parce que je vais spoiler la fin. Alors déjà, il faut savoir que Maus alterne entre deux narrations et deux époques différentes. D'une part, dans le présent, en 1978, avec Art Spiegelman qui interviewe son père Vladek, causant des tensions entre les deux. Et d'autre part, le récit de la déportation de Vladek qui commence en Pologne dans le milieu des années 1930 et se termine par la libération par les Américains en 1945. Maus est une œuvre qui a été publiée en deux volumes, le premier en 1986 et le second en 1991. Le premier tome s'appelle « Mon père saigne l'histoire » et débute avec un souvenir d'enfance de Hart. Un jour, en 1958, il tombe en faisant du patin à roulettes avec ses amis, qu'il abandonne. Il retourne chez lui, en larmes, et lorsque son père l'interroge sur la raison de ses pleurs, Hart lui raconte l'événement. Vladek lui dit alors « Des amis ? Tes amis ? Enfermez-vous tous une semaine dans une pièce sans rien à manger, alors tu verras ce que c'est les amis. » Ce prologue permet de transitionner vers le début de l'histoire, qui commence avec la visite d'Art à son père au présent, afin de lui demander de raconter son expérience de la Seconde Guerre mondiale. Au fil de la BD, et accompagné de pauses où l'on apprend les tensions présentes entre Art et son père, on découvre la vie de Vladek en Pologne avant sa capture, sa rencontre avec Anja, sa première femme, et la naissance de son premier fils appelé Richieux. Il est ensuite capturé par les nazis après avoir été envoyé au front par la Pologne. En tant que prisonnier de guerre, il était forcé à travailler dans les camps, et on y découvre les conditions de l'internement, sa lutte pour survivre et les stratégies qu'il a employées, comme l'échange de biens contre de la nourriture. Il raconte aussi la brutalité des gardes nazis et les punitions infligées aux détenus. En 1943, les nazis déplacent les juifs d'un ghetto à l'autre. Richieux, qui est, je rappelle, le fils de Vladek, est envoyé chez une tante pour sa sécurité, mais cette tante finit par l'empoisonner lorsque les nazis sont sur le point d'arriver chez elle. Quant à Vladek, il réussit à s'échapper des camps, mais il est recapturé et envoyé à Auschwitz. Et c'est là que le premier tome se finit, après une énième dispute au présent entre Art et Vladek. Le récit reprend en 1986, avec le deuxième tome qui s'appelle « Et c'est là que mes ennuis ont commencé ». qui alterne toujours entre passé et présent. Ce tome explore la fin de la guerre et ses répercussions sur Vladek, notamment sa vie après la libération. Après avoir survécu à Auschwitz, où il avait notamment contracté le typhus, Vladek et sa femme font face à la méfiance de leur entourage en Pologne et décident de partir aux États-Unis en 1951 afin de commencer une nouvelle vie. Cependant, cette transition est marquée par des obstacles culturels et linguistiques, ainsi que par du travail acharné et des difficultés pour survivre économiquement. La bande dessinée se termine par des cases représentant les tombes de Vladek et Anja, parce que Vladek est décédé avant l'achèvement du livre. Comme vous avez pu le comprendre, l'histoire de Maus est double. Elle raconte à la fois les souvenirs du père de Spiegelman, Vladek, et la relation complexe entre Art et son père alors qu'il recueille ses témoignages pour créer la bande dessinée. Mais ce qui rend Maus si remarquable, c'est son utilisation de l'allégorie. Les juifs sont représentés comme des souris, d'où le nom Maus qui veut dire souris en allemand, les nazis comme des chats, les américains comme des chiens, ou encore les polonais comme des porcs. Sur la couverture, on voit deux souris qui se collent l'une contre l'autre, comme si elles étaient tétanisées par le faisceau du projecteur qui imprime derrière elles leur ombre sur le mur. Dans le cercle de lumière blanche, on aperçoit une croix gammée dont le centre est occupé par une tête de chat figurant Hitler, comme l'indique sa moustache. Cette utilisation d'animaux anthropomorphisés permet à Spiegelman de raconter l'histoire de son père et de la guerre de manière symbolique et métaphorique, tout en explorant les thèmes de la déshumanisation, de l'antisémitisme et de la survie. D'ailleurs, en déplaçant la tragédie sur un plan animal, Spiegelman parvient à donner une dimension universelle à son récit, soulignant que de telles atrocités ne sont pas spécifiques à une seule communauté ou à une seule époque. Mais le plus important dans cette BD, c'est son objectif, se souvenir. En racontant l'histoire de Vladek Spiegelman, Maus souligne l'importance de la transmission de l'histoire et de la mémoire collective. Art accomplit un devoir de mémoire en couchant sur le papier les souvenirs de son père sous la forme d'une BD, ce qui, fin des années 1980, était un vrai pari aux États-Unis parce que les comics étaient vus comme un média à destination des enfants pour des récits de super-héros. Lorsque Vladek se retrouve emprisonné à Auschwitz, il relate factuellement la faim, les privations, les maltraitances, les tortures, les rafles, la famine par les coups, par les exécutions sommaires ou dans les chambres à gaz. C'est un véritable récit d'un survivant qui s'interroge sur les séquelles psychologiques d'une telle succession de traumatismes effroyables. Et la BD cherche justement à montrer comment les récits personnels peuvent servir à éduquer les générations futures sur les horreurs de l'Holocauste et l'importance de lutter contre l'intolérance et la haine afin d'éviter que de tels crimes se renouvellent. Pour conclure, Maus est bien plus qu'une simple bande dessinée. C'est une œuvre d'art littéraire et visuelle qui continue à captiver et à émouvoir les lecteurs du monde entier, tout en offrant un témoignage poignant de l'Holocauste et de ses conséquences sur les générations suivantes. La BD est devenue une référence incontournable. C'est un témoignage extraordinaire d'un survivant du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Le lecteur assiste aux entretiens d'Art avec son père et vit en direct les souvenirs de ce dernier qui sont alors racontés au temps présent. Alors j'ai bien détaillé ce thème de la mémoire, mais pas forcément celui des conflits familiaux et générationnels, donc si jamais cela vous intéresse, je vous invite vivement à aller lire la bande dessinée. Donnons maintenant la parole au public. Je vous invite donc à écouter Benoît, qui va nous parler d'une bande dessinée qu'il lisait pendant son enfance, et toujours aujourd'hui, Les Tuniques Bleues. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il la lisait sans forcément prêter attention à la portée sociale et politique qui se cache derrière, et je suis sûre que c'est aussi le cas pour beaucoup d'entre vous.
Alors, Les Tuniques Bleues, c'est une série de bandes dessinées humoristiques qui raconte les aventures du sergent Chesterfield et du caporal Blutch. Ils sont tous les deux militaires dans l'armée de l'Union, c'est l'armée du Nord, opposée à l'armée de Confédérés, celle du Sud. Et tout ça à l'époque de la guerre de sécession aux États-Unis. Au-delà de l'aspect comique des situations et des personnages, cette série relate toutes les horreurs de la guerre. Alors je crois que j'ai à peu près toute la série des Tuniques Bleues, et effectivement je la lisais quand j'étais enfant. C'était juste des histoires divertissantes, drôles, et avec le recul je réalise aujourd'hui la portée sociale et politique des Tuniques Bleues avec des thèmes comme la fraude politique, l'exploitation des Noirs et l'injustice sociale. Il y a notamment une bande dessinée dont le titre est Blackface qui illustre très bien tout cela. Alors, on est en pleine guerre de sécession, une guerre qui dure, Et le général Alexander, qui dirige cette guerre, envisage une nouvelle stratégie qui consiste à provoquer une révolte chez la population noire sudiste, donc côté de l'opposition, afin de déstabiliser les lignes ennemies. Les nordistes sont censés se battre officiellement pour l'abolition de l'esclavage et la liberté de la population noire. Alors voilà, le régiment de cavalerie étant décimé, il décide d'envoyer les deux cavaliers qui restent, donc nos deux héros, Blutch et Chesterfield, en territoire ennemi. Et pour ça, ils se font accompagner d'un fossoyeur noir qui se fait surnommer par les soldats Blackface. Et on reviendra là-dessus parce que c'est un des éléments marquants. Et malheureusement, Blutch et Chesterfield se retrouvent séparés de leur homme qui se rend auprès de la population locale pour prêcher la révolte. Non pas uniquement contre les sudistes, mais contre la population blanche tout entière. En effet, Blackface considère que, qu'on soit chez les nordistes ou chez les sudistes, la solution pour les noirs reste la même. Ils sont toujours inférieurs aux blancs et ne peuvent se prétendre libres. Voilà, alors dans la bande dessinée, la situation dégénère, les noirs se révoltent. Ils se révoltent dans le camp censé défendre la cause de ces derniers. Et au final, c'est une tuerie sanglante et cruelle. Alors en analysant un peu ce scénario que je viens de vous relater, le général, il prend finalement une stratégie quand même très fumeuse, très risquée, pour affaiblir ses adversaires, les confédérés. Son idée, finalement, ne semble pas si stupide, en vrai, quand on regarde un petit peu. Mais en fait, le général Alexander sait très bien que les causes profondes de cette guerre ne sont pas la promotion de la liberté des Noirs. Mais il se dit sûrement que cette population est crédule, inférieure, pour se battre en leur nom. Son plan se retourne malheureusement contre lui, car les Noirs sont loin d'être bêtes. Et ils se retourneront autant contre les sudistes que contre les nordistes. En fait, il ressort une image peu glorieuse du général qui est responsable d'un véritable carnage. Et puis également, un élément majeur s'apparentant à de l'injustice sociale, le personnage principal de cette bande dessinée se fait appeler Blackface. Un personnage sans nom qui incarne brièvement toute la frustration d'une population, qui, peu importe où elle se trouve, est toujours considérée comme une espèce inférieure, devant se battre pour prouver aux Blancs qu'ils sont dignes d'être comme eux, d'être considérés comme des hommes libres. En réalité, Blackface est un personnage intelligent et désabusé, qui sait pertinemment que derrière les mensonges des nordistes, la situation des Noirs, libres ou non, ne change pas, car ils sont condamnés à exercer des travaux médiocres et à affronter le mépris de la population. Alors voilà une petite synthèse que je peux vous donner en me replongeant dans les tuniques bleues et l'impact social et politique, tous les enjeux associés.
Et c'est ainsi que le 7e épisode de Galerie d'Art se termine. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour parler du numérique. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve le mois prochain. Merci pour votre écoute.